votre hôte, et je vous remercie chaleureusement de votre écoute. Dans cet épisode, j'ai la chance d'échanger avec Gamaliel Njoya, qui est conservateur du Musée Royal de Patoufam au Cameroun. Gamaliel évoquera ses recherches sur les restitutions des patrimoines, mais aussi son quotidien en tant que responsable de musée et son intérêt pour le tourisme culturel.
Je ferai une présentation à la fois, je dirais, académique et professionnelle. Sur le plan académique, j'ai fait les études du patrimoine, les sciences du patrimoine au Conservatoire de Douala, au département d'histoire et de muséologie et du patrimoine, je voulais dire autant pour moi, où j'ai reçu un master recherche et mon sujet de recherche portait sur la problématique de la restitution des œuvres d'art à l'Ouest Cameroun, parce que vous savez, c'est un sujet qui est beaucoup d'actualité. On se demande, est-ce que les structures d'accueil sont assez prêtes pour recevoir les œuvres dont telles réclament? Est-ce qu'elles seront capables, ces structures d'accueil, de les conserver et de les pérenniser à la future génération? Et c'est dans cette même logique que j'ai poussé ma recherche, cette fois-ci en thèse, toujours sur la même problématique de la restitution, en travaillant sur la contribution des savoir-faire endogènes liés à la conservation. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la conservation en contexte muséal, c'est beaucoup plus au modèle occidental qui a été importé de façon très, très aveugle et imposé en Afrique, et malheureusement qui ne connaît pas assez de succès parce que l'environnement africain n'est pas assez prêt et ne dispose pas d'assez de moyens pour implémenter, pour faire usage des moyens de conservation des œuvres d'art dites conventionnelles. Alors, en thèse, je m'interroge donc sur la contribution des savoir-faire dits endogènes ou traditionnels, parce que faudrait y rappeler qu'avant l'avènement de la colonisation, les œuvres d'art d'origine africaine aujourd'hui qui séjournent dans les musées européens ne sont pas parties des musées en Afrique pour des structures muséales en Europe. Bien au contraire, ces œuvres sont parties des chifferies. Ces œuvres sont parties des cases sacrées et bien d'autres. Alors, comment on les conservait avant l'avènement des musées? Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de réactiver ces savoir-faire pour que les musées communautaires de l'Ouest Cameroun puissent en bénéficier? Je ne vais pas être long sur ce sujet. Voilà ce qu'on peut retenir pour ma noble connaissance académique. Alors, s'il faut revenir sur mon parcours professionnel, depuis 4 ans environ, je travaille au Cameroun comme conservateur de musée à l'Ouest Cameroun au sein du Musée Royal des Batoufam. Et je suis également médiateur et je coordonne tout ce qui est lié à la régie, et à la documentation et bien d'autres. Voilà ce qu'on peut retenir de mon parcours professionnel. Je travaille également sur le plan touristique avec des organisations internationales. Je pense pour ainsi dire à l'Organisation internationale du tourisme social qui siège à Bruxelles. Le mois dernier, j'étais à Ponta de Galdé au Portugal. Nous avons tenu un congrès international du tourisme social. Donc, en dehors des questions muséales, je m'intéresse beaucoup au tourisme culturel qui d'ailleurs fait partie de l'une de mes spécialités.
D'accord. Ben, c'est un sujet sur lequel on reviendra. Peut-être, Gamaliel, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu es Angoulême et ta vision d'être comme ça en résidence et nous expliquer ce lien peut-être entre le musée d'Angoulême et l'établissement auquel tu appartiens et le Cameroun.
Alors, pourquoi être à Angoulême? Je dirais deux choses. Premièrement, c'est un renforcement des capacités. Faudrait y reconnaître que les écoles d'art sont relativement jeunes au Cameroun et datent de moins de 10 ans. Par exemple, vous avez l'Institut de Beaux-Arts de Foumban, l'Institut de Beaux-Arts de Consamba, qui est rattaché à l'Université de Douala. Tous ces deux instituts, si j'ai bon mémoire, ont à peine 10 ans d'existence. Et vous savez également, dans le processus académique en Afrique en général et au Cameroun en particulier, lorsqu'on est en Afrique subsaharienne, l'enseignement est beaucoup plus théorique parce qu'on dispose très peu de moyens pour avoir des laboratoires nécessaires et les musées ne se sont pas encore suffisamment appropriés au sens propre du terme des savoir-faire liés à la conservation conventionnelle qu'on enseigne à l'école et qui parfois sur le terrain n'existe pas. Donc mon premier objectif, c'était déjà à Angoulême, au musée d'Angoulême bien sûr, de me familiariser avec l'environnement muséal au sens normatif, au sens occidental, de façon très très pratique, à maîtriser certains domaines, je voulais dire, liés à l'exercice de ma fonction, notamment la médiation, la régie, la conservation, le récollage et tout ce que cela peut comporter. Une autre raison également, mon séjour à Angoulême est aussi beaucoup plus lié d'un autre côté à mon sujet des recherches, puisque je vous ai dit qu'en thèse, j'ai fait une sorte d'étude comparative entre les savoir-faire des conservations dites conventionnelles et les savoir-faire des conservations dites endogènes au Cameroun. Donc ici, j'essaie d'observer de près les méthodes dites conventionnelles, de ressortir également leurs limites, et de faire une sorte d'étude comparative avec des savoir-faire dits traditionnels dont j'ai maîtrisé un peu plus. Donc voilà les deux raisons qui justifient ma présence ici. Et cela est rendu possible par la coopération française, parce qu'il faut bien le souligner que c'est le gouvernement français, par l'Institut français du Cameroun et l'ambassade de France au Cameroun, qui octroie des bourses aux professionnels dont j'ai eu le privilège d'en bénéficier pour pouvoir renforcer leurs capacités.
Combien de temps dure ce séjour à Angoulême?
Oui, le séjour dans Angoulême, pour moi, dure 2 mois, disons 7 semaines, moins de 8 semaines. Malheureusement, c'est vrai que pour un début, j'étais parti sur la base de 6 mois, mais pour des raisons qui ne dépendent pas de ma volonté, les donateurs ont plutôt jugé bon de m'accorder 2 mois. Et je me réjouis de cela. Je suis d'ailleurs très satisfait et je capitalise. Comme on le dit souvent, en peu de temps, on peut faire beaucoup de choses. J'essaie de me fixer des priorités. J'essaie de m'intéresser à tout ce qui se passe autour de moi au sein de l'entreprise. Ça me permet, pour ainsi dire, de faire plusieurs choses à la fois. C'est vrai que j'aurais aimé que ça soit un peu plus long, parce que en 7 semaines, c'est pas évident de s'approprier des compétences professionnelles. Mais que ça n'empêche non plus que je puisse exploiter le peu de temps qui m'est accordé et de réaliser des choses intéressantes à mon avis.
Oui, peut-être l'occasion de prendre encore davantage de contacts en France, éventuellement en Europe, par l'intermédiaire du musée.
Exactement.
Ça. Alors, on en est où de la question des restitutions? Parce qu'on parle beaucoup ces derniers temps, en Europe, j'ai envie de dire, dans le monde entier, de décoloniser le musée. On voit qu'il y a des pratiques très différentes en fonction des pays sur ces questions de restitution. J'aimerais avoir deux avis de ta part, Gamaliel, un avis d'un chercheur, c'est-à-dire de quelqu'un qui regarde et analyse cette question, et l'avis d'un professionnel du patrimoine camerounais. Voilà, un avis plus personnel.
Alors, s'il faut se pencher sur la question de la restitution, sur les 3 aspects dont vous me suggérez, s'il faille que j'aborde cette question en qualité de chercheur, je dirais la restitution a un fondement ethnographique, un fondement moral. Eh bien, pourquoi? Parce que lorsqu'on essaie de réexaminer les conditions qui ont, comment dirais-je, favorisé l'exportation illicite de ces œuvres d'art de l'Afrique en général pour l'Europe, on comprend qu'il y a eu un certain abus parce que certes il y avait des dons, mais parfois également plusieurs œuvres sont passées par le marché illicite de l'art également. Il y a eu également l'influence de du complexe, je dirais de l'Africain qui se trouvait inférieur face à l'Occident et qui pensait que tout ce qui lui appartenait des biens devait revenir aux Blancs parce que on valorisait la suprématie occidentale. Donc, au regard de ce contexte, de cet environnement qui a contribué au départ illicite de ces œuvres, c'est une logique que les Africains puissent réclamer ce qui leur revient des droits et sans oublier le fait que ces œuvres également ont un apport culturel et culturel. Il y a une dimension religieuse qui se trouve cachée derrière ces œuvres. Mais par contre, s'il faut revenir sur un plan un peu plus réaliste, la difficulté avec la restitution, certains Africains trouvent que c'est peut-être exagéré pour les Occidentaux qui exigent les structures d'accueil, mais moi je pense également que l'argument des structures d'accueil est un argument à ne pas négliger. Pourquoi? Eh bien, parce que la quasi-totalité de ces œuvres africaines qui séjournent aujourd'hui dans les musées occidentaux ont un intérêt à caractère universel. Ce sont des laboratoires de recherche, ce sont des témoins tangibles de l'histoire. Les rapatrier de façon brutale en Afrique sans au préalable aménager les conditions d'accueil, on risque de les perdre. D'ailleurs, on se souvient dans les années 50 avec la première restitution qu'il y a eu au Congo belge, ces œuvres importantes qui ont été restituées par la Belgique au Congo, et que malheureusement, quelques mois après, ces œuvres se sont retrouvées dans le marché illicite. Donc, je pense que la problématique des structures d'accueil, on devait revoir cela. Et en tant que chercheur également, c'est l'une des raisons pour laquelle je m'intéresse à la contribution des savoir-faire endogènes. Pourquoi? Parce que il faut toujours s'appuyer sur les mesures conventionnelles. Ces mesures constituent un luxe pour l'Afrique. Déjà, lorsque je prends le cas de mon pays qui est le Cameroun, nous n'avons pas encore un musée conventionnel, justement parce que ce sont des choses qui coûtent énormément cher et l'Afrique n'a pas toujours assez de moyens pour ça. Est-ce qu'il faudrait pas utiliser des mesures alternatives, par exemple réactiver les savoir-faire liés à la conservation traditionnelle dans les chefferies de l'Ouest Cameroun, dans les chefferies de la partie septentrionale, par exemple, où on pourrait peut-être utiliser d'autres moyens pour pouvoir garantir ces œufs. Et pour sortir, un autre problème qui pèse sur la problématique de la restitution des œuvres au Cameroun, ou bien je parlerai de l'Afrique, désolé, c'est vrai que je suis camerounais, de temps en temps je reviens trop sur le Cameroun, c'est aussi la mise en valeur. C'est la mise en valeur parce qu'il faudrait, à mon avis, en tant que professionnel, développer au maximum le tourisme interne. Ma structure, par exemple, 80% de mes visiteurs sont des Français et c'est dommage. On l'a vu avec la pandémie, les musées ont fermé au Cameroun, les structures touristiques ont fermé. Eh bien, pourquoi? Parce que il n'y avait plus de vols, il n'y avait plus d'étrangers. Si on n'est pas capable en Afrique de réactiver le tourisme en interne, on ne saurait mettre en valeur ces œuvres. On va les déposer dans des structures d'accueil, des chefferies, des musées, et qui vont constituer plutôt un mouroir pour ces œuvres qui aujourd'hui ont un intérêt, je dirais, très universel.
Justement, alors, puisque un des points qui t'intéresse et que tu développes au Cameroun, c'est le tourisme culturel. Peut-être qu'on peut étendre aussi au tourisme naturel, puisque le Cameroun a aussi des richesses naturelles. Quelle serait la balance entre, d'une part, une attractivité, c'est-à-dire montrer ce patrimoine naturel et culturel à des étrangers, parce que ça peut être des étrangers venant d'Afrique et des Occidentaux, mais aussi l'intérêt d'une culture patrimoniale et de cette économie qui pourrait être générée pour la protection du patrimoine. Quel est ton point de vue là-dessus?
Oui, déjà, lorsqu'on parle d'atout touristique en Afrique, à mon avis, on ne saurait dissocier le tourisme culturel du tourisme naturel. Parce qu'en Afrique, tous les sites naturels ont une dimension culturelle et spirituelle. D'ailleurs, la plupart des sites naturels, que vous soyez dans les chutes des Konkan, que vous retrouvez au sommet du Mont Bapit dans la partie ouest Cameroun, il y a des rites qui se pratiquent dans ces lieux généralement. C'est comme un cordon ombilical qui lie les détenteurs de ces sites à leurs ancêtres, à leur religion et bien d'autres. La mise en valeur des sites naturels et culturels au Cameroun ou alors l'expansion du tourisme culturel dépend fortement, à mon avis, à d'abord l'aménagement des sites et la communication. C'est le problème auquel nous faisons face. Vous allez retrouver qu'en général, lorsqu'on parle des destinations Cameroun, j'espère que certains Camerounais ne seront pas choqués, mais je préfère être réaliste et objectif. C'est que parfois sur les réseaux sociaux, on vous présente des très belles images, mais malheureusement, vous avez un problème d'accès pour arriver sur le site. Moi, je le dis parce que je suis sur le terrain au quotidien. Il y a d'abord un problème d'aménagement et qui relève du fait que la plupart des promoteurs de ces sites n'ont pas assez de moyens et constamment recherchent toujours des partenaires qui peuvent les appuyer dans ce sens. Et de l'autre côté, il y a un problème de communication qui manque. La communication relève également du fait que les détenteurs des sites ne sont pas assez formés à faire usage de tous les moyens technologiques de la communication, notamment les réseaux sociaux et tout ce que cela peut comporter, les sites internet et bien d'autres. Alors, une fois qu'on parviendrait, premièrement, à faire un bon aménagement des sites, deuxièmement, à faire une communication autour de ces sites, je suis convaincu que cela peut constituer un potentiel qui puisse attirer des touristes à l'extérieur et voire même en interne. Mais, par contre aussi, le tourisme culturel soulève également un autre problème, c'est celui de l'authenticité du site. Parce qu'à force de drainer un nombre important de visiteurs sur un site naturel et que ces sites ont une valeur culturelle et culturelle pour la communauté qui la détient, on se demande si on ne va pas plutôt concourir à la dégradation de ces sites. Mais on peut jouer pour trouver le juste milieu et cela se fera, à mon avis, avec le concours de la communauté locale. Et je profite également pour faire comprendre au grand public qui nous suit que le Cameroun est l'une des meilleures destinations touristiques en matière de sites culturels et naturels. D'ailleurs, pour preuve, nous avons plus de 230 ethnies. C'est un atout énorme. Mais je pense que une fois que l'aménagement sera bien fait, la communication également, on peut vendre au-delà de ce que nous avons aujourd'hui comme rentabilité.
Justement, alors pour j'aurais envie là après, on a parlé de choses qui sont des sujets de présent et à venir extrêmement importants sur cette question du patrimoine, mais est-ce que tu pourrais nous faire voyager et quel serait selon toi, justement, puisqu'on parle de tourisme, de développement et de culture, pour quelqu'un qui vient au Cameroun, quel serait une sorte de parcours idéal? Alors, il y a beaucoup d'ethnies comme tu le dis, beaucoup peut-être de cultures différentes, mais comment, quel serait ce parcours idéal entre du patrimoine naturel et du patrimoine culturel pour faire découvrir, hein, ce qui serait le condensé, de ton pays?
Alors, s'il faut faire une recommandation à un touriste qui viendra au Cameroun sans réfléchir, ce qui me vient à l'esprit à l'instant T, je vous recommanderais la destination Ouest Cameroun pour deux raisons. La première raison vient du fait que l'Ouest Cameroun présente une diversité culturelle. Lorsqu'on parle de la région de l'Ouest Cameroun, on la présente comme étant la capitale de l'art au Cameroun, que ce soit la sculpture sur bois, que ce soit le bronze, que ce soit la tannerie, que ce soit également l'art du bambou, vous allez retrouver tous ces éléments dans la région de l'Ouest. Et la région de l'Ouest également a pour spécificité le nombre des musées communautaires qu'il offre. Je pense pour ainsi dire par exemple au musée royal des Batoufa, qui est un musée de plein air et qui a cette particularité exceptionnelle au Cameroun, que les œuvres ne sont pas exposées dans une salle, mais bien au contraire de plein air. Pourquoi de plein air? Parce que ce sont des œuvres très fonctionnelles, usuelles, et aujourd'hui, toujours et demain d'ailleurs, on continue à les utiliser dans leurs fonctions spirituelles, dans leurs fonctions d'initiation et bien d'autres. C'est également une curiosité à visiter. Je pense également à Foumban, où vous allez participer par exemple les vendredis à cette, comment dirais-je, expression m'échappe, je pense que ça va revenir, au spectacle des chevreaux organisé par le roi à la sortie de la prière. Vous avez également son musée qui est très enrichissant. Et s'il faut revenir sur les sites naturels, vous avez le cratère du Mont Bapit également qui fait objet de beaucoup d'attractions, toujours dans l'Ouest Cameroun. Vous avez les chutes de la Métier. Et autant de choses que je ne saurais citer ici au téléphone. Et selon les statistiques, la région de l'Ouest Cameroun est la première en termes de destination touristique pour les locaux et pour ceux qui viennent d'ailleurs. Je recommanderais également la partie septentrionale, mais avec beaucoup de réserves, parce que je sais que pour les Français, je ne sais pas si l'alerte est levée sur cette zone avec la crise de Boko Haram, et bientôt la région septentrionale n'était plus assez recommandée. Mais je dirais à tort parce que les réalités du terrain sont autres. J'y étais récemment. Vous avez également une nature impeccable. Je pense à la réserve de la Bénoué, la réserve de Bobadida. Je pense également dans le Diamaré, à la forge qui se retrouve au niveau des Doualaré. Vous avez le pic des Mindif, les monts Mandara et bien d'autres éléments hyper intéressants. Si vous parvenez à visiter ces deux régions, à mon avis, au Cameroun, je pense que vous aurez le condensé de la culture camerounaise.
Ah, merci, c'est très alléchant. Et justement, est-ce que tu peux nous, tu nous as parlé là du musée dans lequel tu travailles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le fait d'être dans un musée qui est à la fois un musée de plein air, mais un musée complètement vivant, puisqu'il s'y passe des choses. Alors, dans le musée dit conventionnel, souvent les objets sont à l'abri, protégés, à tel point qu'il est difficile même pour d'y avoir accès sous prétexte de protection. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que ça se passe tout ça naturellement? Qu'est-ce que vous apprenez au musée de ces pratiques?
Alors pour répondre à ces questions, je vais reprendre les propos du docteur Emen, qui est directeur du Musée national, qui n'a jamais cessé de dire qu'il faut repenser les musées africains. Pourquoi repenser les musées africains? Eh bien parce que on s'est rendu compte qu'on a voulu importer le modèle occidental sans tenir compte des réalités africaines. C'est pour cette raison que, en pensant le musée royal des Batoufarmes, qui se trouve à l'Ouest Cameroun, où j'ai travaillé en qualité de directeur conservateur, le fondateur du musée, Samassé Nayantouka Minosan, à la base, il s'est posé un certain nombre de questions, parmi lesquelles, comment créer un musée qui puisse répondre aux réalités de ma communauté? Pourquoi ces questions? Parce qu'en réalité, la quasi-totalité des objets de ces musées sont des objets fonctionnels. Quand vous êtes à l'entrée du musée royal de Batoufarmes, par exemple, ce qui vous accueille, a priori, c'est cet hôtel. Et l'hôtel qu'on utilisait et qu'on utilise d'ailleurs toujours aujourd'hui, comme étant une sorte de caméra, j'aime utiliser cette expression, c'est comme un scanner. Lorsque vous arrivez et que vous avez des intentions maléfiques, vous passez par ce scanner qui alerte le roi pour qu'il prenne les dispositions nécessaires. Si vous déplacez ces pierres, elles ne sauront plus jouer leur fonction. Dans le parcours également, vous allez retrouver le mortier, qu'on va appeler le mortier de communion, le mortier de partage, où le roi, au moins une fois par an, va faire un mélange d'aliments, haricots blancs, viande de chèvre, huile de palme, et va remettre chaque partie à la foule, à chaque membre de la foule qui est présent dans ces circonstances. Si vous déplacez également ce mortier, il ne saurait plus jouer sa fonction et serait plus en harmonie avec la société. Quand vous entrez, par exemple, dans l'une des cours du musée, c'est toujours une cour de plein air. Si vous permettez que je vous balade un peu, j'espère que ce n'est pas de trop et que ça ne vous dérange pas.
Ah non, non, au
Si vous
contraire.
entrez dans le lac, par exemple, vous allez trouver dans le lac une grande statue qui a deux visages. De l'autre côté, c'est le visage de l'homme. De l'autre côté, c'est le visage de la femme. Alors pourquoi deux visages? Parce que le lac, comme c'est un lieu initiatique, lorsque le futur roi passe par là, la condition requise pour qu'il sorte de là, c'est qu'il doit mettre au monde deux enfants de sexe opposé, une fille et un garçon. Déjà, c'est pour rappeler la dualité du genre humain. On est à la fois homme et femme. Et vous savez, en Afrique, on attache beaucoup du prix au genre. Pour que la société soit fondée, il faut un homme et une femme qui vont se lier par des liens de mariage. Et on utilise également ces statuts. Pour rappeler au futur roi en pleine phase initiatique son devoir d'être procréateur, par exemple. Vous voyez à quel point les œuvres qui sont dans les musées parlent, et sans oublier les trônes du roi, parce que lorsqu'on parle des premiers trônes, c'est sous forme circulaire, sous forme de tabouret, que vous allez trouver au sein du musée sur ce qu'on va appeler le palais traditionnel du roi, que le roi utilise chaque week-end pour présider les deuils. Chaque week-end, vous verrez des serviteurs qui vont venir prendre ses trônes. Ils vont mettre dans le véhicule du roi, l'accompagner dans son royaume pour présider les deuils. Et également, lorsque le roi veut gérer les litiges importants au sein de sa communauté, il va utiliser ces mêmes trônes, sur ces mêmes palais. Et les visiteurs également vont, pendant certaines circonstances, assister à ces cérémonies, que ce soit le tribunal coutumier, que ce soit des rituels et bien d'autres. Là, c'est pour que vous ayez un aperçu de la dimension fonctionnelle de ces œuvres. C'est la raison pour laquelle le musée des Batoufarmes, comme je le disais déjà en amont, est un musée fonctionnel et on ne saurait au grand jamais déplacer ces œufs et les mettre dans une salle close. Parce que si vous les mettez dans une salle close, elles ne joueront plus leurs fonctions, elles seront appelées à disparaître tout simplement.
Merci pour cette description d'un musée vivant, avec des objets qui ont une fonction et qui vivent encore. C'est passionnant. À l'échelle africaine, est-ce que dans l'échange avec les collègues, comme ça, vous dites, tiens, telle expérience récente en termes patrimoniales nous intéresse?
Oui, à l'échelle africaine, je pense qu'au Cameroun, s'il faut commencer par là, il y a beaucoup de musées qui m'inspirent. Je parlerai, pour ainsi dire, du musée national. Le musée national a eu cette chance d'avoir un professionnel, son directeur, qui a d'ailleurs fait ses études à l'extérieur. Et il met en valeur ses compétences. Eh bien, pourquoi? Parce que c'est le seul musée au Cameroun, je peux dire, qui a beaucoup d'activités scientifiques. Au moins, c'est une conférence mensuelle par mois. J'ai été invité pour la dernière conférence et je pense que là, le directeur prépare encore une autre conférence pour le mois prochain qui portera sur la restitution. On en parlait encore hier avec Dr. Eumann. Et autre chose également, c'est un musée qui travaille beaucoup avec des artistes. C'est vrai qu'à Batoufa, nous le faisons déjà. On se souvient de leur dernière exposition Contact Zone, qui avait reçu plus de 20 000 visiteurs. Ça, c'est un exploit. Et quand on parle de 20 000 visiteurs, c'était à 80% des locaux. Ça, c'est un défi qu'ils ont pu relever, à mon avis. Donc, je pense que je pourrais m'inspirer de cette animation pour pouvoir l'implémenter au sein du musée des Batoufa. C'est vrai qu'avec le public, nous menons déjà pas mal d'activités, mais si on parvient aussi à organiser des conférences, j'ai également vu cela ici au musée d'Angoulême, comment chaque semaine, ils ont une thématique avec des collègues, ils vont essayer d'échanger. Ça permet d'apprendre au quotidien, ça permet d'être en éveil informationnel également. Ça permet aussi d'éduquer, parce que le musée a une autre dimension, c'est pas seulement présenter le contenu, mais il faut aussi informer. Il faut informer, il faut éduquer le peuple. Donc, voilà quelques exemples que je trouve assez intéressants et qui pourraient aussi être utiles pour ma petite structure muséale.
Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Gamaliel?
Ce que je pourrais ajouter, c'est que ça, c'est une interpellation que je ferai à l'endroit des garants de ce qu'on appelle musée, c'est qu'à un moment, il faudrait qu'on le veuille ou pas, que l'on redéfinisse la conception du musée. Parce qu'à mon avis, on est resté beaucoup plus ancré sur le modèle occidental et ça fait en sorte que l'Afrique passe énormément à côté. Je félicite déjà l'ICOM pour la nouvelle définition de cette année, de 2022, où je retiens deux expressions, la notion d'inclusion et la notion de durabilité. La notion d'inclusion suppose que on devrait plus rejeter le musée africain parce que la structure n'est pas conforme, les outils de conservation ne sont pas conventionnels, la gestion des températures, la gestion d'éclairage. Parce qu'en réalité, si vous partez sur la base de ces critères, je prends le cas de mon pays que je maîtrise bien, on serait tenté d'arriver à la conclusion selon laquelle il n'y a pas de musée conventionnel. Mais par contre, de l'autre côté, on oublie qu'il y a des éléments ethnographiques qui nous poussent à avoir une autre définition des musées qui nous est propre et qui cadre mieux avec nos réalités. Donc, c'est ce que je voulais ajouter, que l'on repense à la définition du musée, à la conception du musée, parce que si on reste dans la logique actuelle, on serait tenté de vouloir imposer une vision qui passe totalement à côté des réalités des structures muséales africaines.
Merci Gamaliel. Ben, je partage ton avis. Moi, je travaille depuis 20 ans dans le domaine des musées et je crois que pour beaucoup de musées qui ont beaucoup d'exigences, en
Ouais.
général, eux-mêmes ne se les appliquent pas, ces exigences. Et c'est une
En
manière,
effet.
c'est vraiment une manière de. Pour moi, j'inscris ça dans une forme de rapport de domination hein, qui n'est pas que vis-à-vis de l'Afrique, mais de certaines
Oui,
grandes
oui,
institutions
oui, oui, oui.
vis-à-vis des autres. Et beaucoup de musées fonctionnent de manière plus simple en
Oui.
essayant d'atteindre des idéaux, mais en étant pragmatique en fait, hein.
Ah ouais, je partage cela avec vous. Et si vous permettez que j'ajoute également une autre idée qui me vient à l'esprit. Ça, c'est aussi une préoccupation personnelle puisqu'on travaille en partenariat. Moi, je pourrais aussi recommander aux musées européens, aux musées occidentaux en général, qui possèdent des collections africaines, de revoir la documentation. ça, c'est aussi un domaine qu'il faut retravailler parce qu'en réalité, la documentation qu'ils ont, il y a beaucoup d'écroquis sur l'origine, beaucoup d'écroquis sur les fonctions et en général, ça vient du fait que ils vont documenter sans s'appuyer suffisamment sur des personnes ressources sur le terrain. Aujourd'hui, on a une expression dans le domaine muséal, on appelle ça la, je crois, c'est la documentation inversée, si j'ai bon mémoire. Je pense que la documentation inversée devait être beaucoup retravaillée pour les musées occidentaux et avec des partenaires sur le terrain en Afrique pour revoir des informations qu'ils ont sur les œuvres qu'ils possèdent parce que ces informations, je peux vous rassurer pour la plupart, ne sont pas assez crédibles.
Oui, ça c'est peut-être la vision de loin en fait. Moi je crois beaucoup au partenariat, c'est-à-dire la recherche de provenance, elle est intéressante. On est en train de. On en parle comme si c'était une innovation extraordinaire. En fait, c'est une forme d'évidence dans le monde muséal.
Non.
Et par contre, c'est intéressant de voir, moi je trouve qu'il y a des liens très forts à créer
Oui.
entre des musées français, en l'occurrence, moi je connais plus, mais et des musées africains, puisqu'il y a une
Oui, tout à
histoire
fait vrai.
partagée énorme. Et je trouve ça très intéressant quand en fait on est plus dans la vraie hybridation culturelle et intellectuelle plutôt que dans un mode qui est toujours plus ou moins descendant. Donc
Ça,
c'est
c'est vrai.
très intéressant sur ce pan de la documentation qui est surtout pour un pays comme le Cameroun, hein, qui a une problématique de documentation.
Oui, au regard de la diversité culturelle, c'est énorme. Et je pense que cette documentation également doit être travaillée en interne aussi au Cameroun. Il faudrait que dans les universités, on encourage les jeunes chercheurs à se pencher sur cette question des documentations. Moi, par exemple, l'année dernière, j'ai connu une jeune collègue qui, non, ça fait 2 ans, elle faisait un master sur l'identification des sculptures sur bois dans la région de l'Ouest Cameroun, où elle travaillait sur des traits identitaires propres à chaque communauté, de telle enseigne qu'en cas de restitution, qu'on sache qu'à partir de tel indice, on pourrait, dans une certaine mesure, attacher telle sculpture à telle communauté. Donc les pouvoirs publics également, à mon avis, au Cameroun, c'est un devoir collectif, devait être encourager les chercheurs à se pencher sur ce sujet pour qu'on ait une documentation solide qui permettrait, le tout n'est pas de réclamer, mais c'est aussi de travailler pour que les conditions de retour soient favorables, à mon avis.
C'est un vrai sujet. En tout cas, j'espère que les gens qui, des collègues qui écoutent, ont envie de vous contacter pour travailler sur ce sujet, puisque il y a plusieurs milliers d'objets, il me semble, dans les musées français qui sont originaires du Cameroun.
Oui, beaucoup, beaucoup. Au Quai Branly, c'est énorme. Pareil ici, là, par exemple, j'étais en train de travailler là-dessus, puisque Émilie m'a demandé de faire un inventaire des œuvres camerounaises du Burkina. Et je constate qu'il y a beaucoup d'œuvres là qui viennent d'Afrique. C'est important. C'est très important. Je pense aussi que la restitution, c'est bien, mais ça ne devrait pas se faire du jour au lendemain. À mon avis, il faudrait qu'on voie la capacité d'accueil avec un regard un peu fin. Parce que si on ne le fait pas, ce sont des réalités africaines. Peut-être certains Africains qui m'écoutent le disent et diront plutôt que je suis occidentalisé. Mais non, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. La vérité, c'est que si les structures d'accueil ne sont pas bien aménagées, si les moyens de conservation, qu'ils soient traditionnels ou conventionnels, ne sont pas mis sur pied, on risque de perdre des choses aujourd'hui qui ont un intérêt universel. Et ça sera une perte, pas seulement pour les Africains eux-mêmes, mais pour la communauté internationale.
Oui, peut-être que pour illustrer ce que vous dites, hein, il y a plusieurs voies aujourd'hui sur la restitution. Il y a certainement une voie qui dit de toute façon, la restitution, c'est une obligation morale et peu importe la question de conservation. Il y a une voie que vous portez avec d'autres collègues qui est, il faut des modalités de circulation d'objets, d'accueil et il faut qu'on ouvre. Pour que le champ et la discussion, pour que ça devienne plus facile et que les conditions ne soient pas non plus absolument empêchantes, parce
Oui.
que il y a aussi des pratiques qui consistent à mettre des conditions pour le transport et le dépôt ou
Ouais,
l'accueil d'objets
ça c'est très vrai.
qui fait que c'est impossible. Alors, je pense que c'est un moyen subtil de ne pas refuser, c'est-à-dire de ne pas refuser frontalement, mais ça, c'est utilisé dans bien des cas d'avoir des conditions d'assurance, de sécurité, de conservation qui sont telles que
Mais
de.
aussi, aussi Cédric, si tu me permets, j'ai aussi l'impression que aujourd'hui, avec la problématique de la restitution, ça devient beaucoup plus politique en fait. C'est ce que j'ai l'impression. C'est un instrument beaucoup plus politique. Quand je vois les initiatives de Macron avec le rapport de Bénédicte Savoy et tout ça en 2018, si j'ai bonne mémoire, ça a permis quand même à Macron d'avoir une certaine bonne image en Afrique où il était, où il dénonçait dans cet amphithéâtre, c'était au Burkina. Je pense qu'il y a aussi une manipulation politique autour de la question qui fait en sorte que les choses n'avancent pas vraiment. C'est aussi ça le problème. Est-ce qu'il faut restituer parce qu'on veut faire croire aux Africains que non, on défend un peu les causes pour avoir certaines faveurs? Est-ce qu'il faut restituer parce qu'on a pris conscience que cette communauté a été volée, elle a été pillée injustement et qu'elle a besoin d'avoir ce qui lui revient des droits? Bon, ce sont des questions qu'il faut également voir de près. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faudrait alléger les conditions de restitution. Je suis d'accord. Mais maintenant, s'il faut alléger ces conditions de restitution, cela ne veut pas pour autant dire qu'on devrait être laxiste, qu'on devrait être passif sur l'existant que l'on présente comme argument des conditions favorables pour recevoir les œuvres. Il faudrait aussi noter que la volonté occidentale, à mon avis, devrait se concrétiser par l'appui des pays africains qui réclament ces œuvres. Il faut aussi les accompagner techniquement, il faut aussi les accompagner financièrement, parce que laisser les Africains se débrouiller tout seuls et connaissant les réalités africaines, à mon avis, serait une sorte d'hypocrisie. C'est de dire, OK, d'accord, si vous avez les conditions d'accueil, on vous les remet, mais quelque part, on est conscient qu'ils n'auront jamais assez de moyens pour avoir ces conditions d'accueil. C'est aussi une façon de refuser indirectement. C'est un peu compliqué.
Oui. Mais c'est vrai que les enjeux déjà de connaissances, hein, de documentation précise, le rapport de Felwine-Sarr et Bénédicte Savoy a ouvert la voie déjà à un premier regard précis sur les objets du patrimoine africain présents dans les musées français. Il y a encore beaucoup de travail, moi, de ce que je vois, de détails, hein, de documentation, et certains musées sont bien en peine pour des raisons de moyens. D'être en capacité de documenter. Et je trouve que ça pose la question de la quantité d'objets, en fait. C'est-à-dire que le musée, finalement, par le prisme colonial, a accumulé des milliers, des dizaines de milliers d'objets dont on ne sait pas très bien ce qu'ils sont et dont on ne sait pas très bien ce qu'ils représentent. Moi, ce serait plutôt par ce biais-là que je m'interrogerais, et pas au-delà de la question de la restitution, qui est, à mon avis, un élément du processus de dialogue culturel, mais cette question de pourquoi avons-nous accumulé autant d'objets dont aujourd'hui on est bien en difficulté de les identifier correctement, voire de les conserver correctement, parce que il y a eu des objets volés dans des grandes institutions françaises et pourtant on demande aux autres des conditions de sécurité, etc., drastiques.
Alors Cédric, je pense que, à mon avis, il n'est plus question de spéculer sur les conditions. Nous savons tous que les œuvres ont été volées, les œuvres ont été prises injustement. Pour moi, on devait arrêter ce débat. C'est du passé, on ne va plus rester ancré sur le passé. Maintenant, au niveau de la documentation, je me souviens quand j'ai rédigé mon master recherche sur la problématique de la restitution des œuvres dans l'Ouest Cameroun, j'avais proposé deux choses. Premièrement, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que nos collègues qui sont ici en Europe devaient travailler en synergie avec nous. Moi, je suis disponible. C'est un appel que je lance à mes collègues qui sont ici. D'ici janvier, je serai au Cameroun. S'ils sont disponibles, moi, je suis sur le terrain. Je suis prêt à travailler en synergie, en collaboration avec eux. C'est-à-dire, on travaille ensemble avec nous qui sommes sur le terrain pour pouvoir organiser peut-être des séminaires, des colloques qui nous permettront, avec des chefs traditionnels, je travaille beaucoup avec des ONG où j'ai réuni des chefs traditionnels et qui pourront peut-être nous donner des éléments d'identification nécessaires. Ça, c'est de deux. Qu'on le veuille ou pas, La similitude des cultures, par exemple, à l'Ouest Cameroun, comment dire, la similitude des cultures ne joue pas forcément en faveur de cette traçabilité. Quand vous êtes à l'Ouest Cameroun, par exemple, vous faites à peine 10 km, vous sortez d'une communauté pour une autre, à peine 15 km, vous êtes sorti d'une communauté pour les autres, et les communautés ont parfois les mêmes masques, les mêmes statues, les mêmes visages. J'ai proposé donc comme solution d'à ces niveaux d'identification qu'on construit ce qu'on va appeler les musées régionaux. Ça veut dire que tout ce qui ressemble au masque de l'Ouest Cameroun, en cas de restitution, étant donné qu'il est impossible d'aller tribu par tribu, qu'on construit un musée régional de l'Ouest Cameroun où on va exposer tout ce qui est à la partie Ouest Cameroun. Alors chaque communauté va se reconnaître et être content parce qu'on n'a pas vraiment, vous l'avez souligné, les conditions d'exportation. Qui sait quel masque est passé par où? Est-ce que ce masque est passé d'abord par le Gabon, par un pasteur ou un prêtre ou un collectionneur? Est-ce que du Gabon, il a transité peut-être pour la Côte d'Ivoire avant de se retrouver en France? Est-ce que la France n'a pas mis l'étiquette de la Côte d'Ivoire parce que son dernier point de départ était la Côte d'Ivoire? Pourtant, il est parti plutôt du Cameroun. C'est un peu difficile. Donc, si on parvient à savoir que ça, c'est ce qui revient du Grand Nord Cameroun, dans la partie septentrionale Grand Nord Cameroun, on crée un musée régional et on les expose tout simplement. Qu'on entre dans le débat, ça va créer des tensions, des tiraillements pour rien. Et pareil pour la partie sud du Cameroun, tout ce qui appartient à FAM, qu'on rentre dans cette partie, on crée un musée régional et on les met en valeur. À mon avis, donc, ce sont ces deux solutions qui peuvent nous faire avancer. Que nous fassions d'abord un effort de terrain avec les acteurs culturels, les chefs traditionnels, les notables, pour qu'ils mettent à notre disposition tous les traits identitaires qui nous permettront d'attribuer l'origine de ces œuvres. Et ceux qui pourront être retracés, tant mieux, on les restitue aux différentes communautés. Et les œuvres dont on ne dispose pas des moindres détails pour les rattacher aux communautés spécifiques, on crée un musée communautaire et on les met à l'intérieur. À mon humble avis, voilà ce qui peut nous faire avancer également sur cette problématique d'identification.
Ah, merci, Camille. Ben, c'est passionnant. Je pense que tu as donné envie de vraiment de.
Désolé si j'ai beaucoup parlé parce que là, j'espère que j'ai pas impacté sur ton temps. Mais je serais ravi qu'une autre fois, une autre occasion, qu'on en parle profondément de ces sujets. S'il y a des collègues français et bien d'autres, ne manquez pas de les envoyer mon mail. Je serais très ravi qu'on échange sur ces sujets. C'est un sujet qui me passionne beaucoup.
Oui, puis je pense que ça rassure. Je vois beaucoup de collègues dans la situation des musées aujourd'hui en France avec les baisses de budget, etc. Il y a des
Ouais.
problématiques de temps, de disponibilité d'esprit. Et je pense qu'il y a eu aussi un peu à un moment une peur véhiculée par le ministère de la Culture sur ces questions de restitution, alors qu'en fait. Moi, j'ai travaillé particulièrement avec le Sénégal et avec les communautés aborigènes d'Australie, mais
Oui.
c'est jamais le premier sujet qu'on a abordé, la restitution. Jamais. On a parlé de problématiques culturelles, de documentation, de projets en commun. Et donc, c'est aussi rassurant. Enfin, je pense que c'est intéressant que les collègues français qui ont en charge des collections africaines ou qui ont dans leur musée
Ouais.
des collections africaines n'aie pas peur d'aller vers les collègues africains, justement parce que pour échanger, non, mais parce qu'ils vont pas être passés à la moulinette.
Non, 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 non.
Voilà.
Et je suis d'accord avec vous. En fait, c'est que on ne fait pas le terrain, on n'est pas assez informé des réalités. Les réalités du terrain sont de telle sorte qu'en Afrique, en général, ce n'est pas la préoccupation de la majorité africaine, la question de la restitution. Ce sont des acteurs culturels et beaucoup plus, c'est un peu politisé, cette question de restitution. C'est un peu politisé parce qu'à un moment, vous avez des chefs d'État qui vont jouer un peu dessus, pousser faire beaucoup de vapeurs. Mais avant, des faveurs, je vous l'ai dit. Avant le rapport de 2018 de Bénédicte, bon, la question de la restitution, ça passait dans les coulisses. Donc, rassurez-vous, chers collègues, les Africains ne vous en voudront pas, et j'ai l'habitude de le dire, ce ne sont pas les Français d'aujourd'hui qui ont pillé ces biens, ça serait injuste de coller ces torts sur leur dos, cette étiquette, non, c'est très injuste. Ce sont les Français d'une autre génération, en quoi Les Français actuels seront responsables. Et d'ailleurs, je félicite beaucoup l'attitude des Européens en général, pas seulement des Français, qui, à mon avis, se montrent aussi favorables à cette question des restitutions, parce qu'aujourd'hui, on en parle, c'est un peu un tabou. On voit des Occidentaux qui ont plutôt une position très, très favorable au retour. Moi, je les félicite pour ça. C'est plutôt un atout, c'est plutôt une preuve qu'ils sont aussi conscients du fait que les conditions d'acquisition de ces œuvres n'étaient pas très très claires et qu'on devait remettre à qui des droits ce qui leur appartient.
Merci. Ben merci du message, parce que c'est un message d'espoir et très positif aussi. Et peut-être que c'est aux générations d'aujourd'hui d'écrire l'avenir, justement, pour faire suite à ces questions et de faire vivre les collections et de rendre ces objets davantage vivants. Merci beaucoup, Gamaliel. C'était
Merci
passionnant.
Cédric.
Nous étions avec Gamaliel Njoya, responsable du musée royal de Batoufam au Cameroun, en résidence au musée d'Angoulême. Merci également à Émilie Salaberry, responsable du musée, de nous avoir mis en contact. Merci Gamaliel de nous avoir fait voyager. À très bientôt.